Au micro, Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. En République démocratique du Congo, au moins 5 civils ont été tués dans de nouveaux affrontements entre Congolais Tutsis rwandophones, les Banyamulenge, et membres de 3 autres communautés sur les hauts plateaux du Sud Kivu dans l'est du pays, ont indiqué jeudi des sources locales et des experts. Les combats ont eu lieu autour de la commune rurale de Minembwe, dans la création en 2019, saluée par les Banyamulenge, a provoqué la colère des autres communautés Bembe, Fuliru et Nyundu, ravivant un vieux conflit. Pendant ce temps, dans la province d'Ituri, 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres. Nous y reviendrons avec Eddie Isango. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, candidat à la présidentielle du 31 octobre, ont déposé 3 requêtes devant le Conseil constitutionnel entre dimanche et jeudi. Selon l'AFP, la dernière porte sur l'inconstitutionnalité du scrutin et les 2 précédentes défendaient l'une l'éligibilité de leur candidat actuellement en France, et l'autre mettait en cause l'éligibilité du président Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat. Le Niger a annoncé jeudi l'annulation en raison du coronavirus de la célèbre cure salée, grande fête qui amène tous les ans à Ingal, dans le nord, des milliers d'éleveurs avec des millions de têtes de bétail venues de tous les pays voisins. Outre le coronavirus, on a aussi cité les effets néfastes des inondations provoquées par de fortes pluies depuis juin et qui ont fait 65 morts et plus de 300 000 sinistrés dans tout le pays, selon les autorités. Cela fait 6 mois, jour pour jour, que le COVID-19 a été déclaré pandémie par l'OMS, sans aucun dénouement rapide à espérer, et la France envisage ce vendredi de potentielles décisions difficiles pour tenter d'enrayer son rebond sur son territoire. Plus de 905 000 décès pour près de 28 millions de cas ont été recensés dans le monde par l'AFP. La maladie a contraint les populations et les gouvernements à d'énormes efforts d'adaptation. Les États-Unis et le Brésil demeurent de loin les plus endeuillés, avec respectivement 191 727 et 129 522 décès. En dépit des efforts énormes investis dans la recherche d'un vaccin sûr, la fin de la pandémie ne viendra pas rapidement, a pronostiqué jeudi le directeur des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan. Un tribunal fédéral de Manhattan a refusé jeudi à l'administration Trump la possibilité de ne pas comptabiliser les sans-papiers dans le recensement en cours aux États-Unis. Un revers pour le président américain qui avait fait du sujet l'un des symboles de sa lutte contre l'immigration clandestine. Les États-Unis ont sanctionné jeudi le parlementaire ukrainien Andrei Derkach, qualifié d'agent de la Russie. Il est accusé d'avoir tenté de discréditer Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre. Andrei Derkach avait rencontré fin 2019 Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président Donald Trump, qui tentait de prouver de prétendus faits de corruption perpétrés par M. Biden et son fils Hunter, en lien avec l'Ukraine. Afghanistan, le président Trump a annoncé jeudi que son secrétaire d'État, Mike Pompeo, se rendrait à Doha pour le début ce samedi des pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans. Entre-temps, les attentats terroristes, les États-Unis commémorent ce jeudi l'anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 qui ont fait 3000 morts ici aux États-Unis. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations. Au Mali, la junte militaire a lancé jeudi une concertation avec des centaines d'acteurs nationaux pour tenter de baliser la voie de l'après-putsch et un retour du pouvoir aux civils. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
À l'ouverture des travaux au Centre international de conférence de Bamako, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a pris la parole d'un ton grave. « Nous sommes condamnés à réussir », a-t-il lancé dans sa traditionnelle tenue camouflage, béret vert sur la tête. Prévu sur 3 jours jusqu'à samedi, ses travaux sur la concertation nationale sur la transition veulent aboutir sur des mesures urgentes pour tracer l'architecture de la transition et à plus long terme, jeter les bases d'une refondation selon les termes du colonel Goïta. Mais le chef de la junte ne s'est pas exprimé sur la durée de la transition ni sur le rôle de l'armée. L'ex-rébellion à dominante Touareg a décidé de boycotter la rencontre. Pour la junte, cette concertation a commencé sous la double pression de forces intérieures aux intérêts de plus en plus divergents et de la communauté internationale. La CDAO a donné aux militaires maliens jusqu'à mardi 15 septembre pour désigner des civils, notamment un président et un premier ministre de la transition.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres. Dans la province d'Ituri, dans le nord-est du pays. Eddy Sango fait le point.
Au moins 35 corps ont été ramassés hier dans le village Tsabi après une attaque perpétrée la veille. Les autorités locales et la société civile accusent les rebelles ADF qui opèrent généralement à Beni, les territoires voisins dans le Nord Kivu. Ces rebelles seraient en train de fuir une offensive de l'armée régulière. 3 chefs coutumiers sont parmi les victimes, a indiqué Guy Likotabo, responsable de la société civile. 17 personnes sont portées disparues selon les autorités locales qui soupçonnent qu'elles ont été enlevées par les rebelles. Beaucoup de villageois ont fui. Mardi, 23 autres personnes ont été massacrées dans la même province. Les miliciens de la CODECO qui se battent pour les Lindous sont pointés du doigt. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense du gouvernement central sont arrivés sur place à la tête d'une délégation des chefs des services de sécurité sur ordre du président Félix Tshisekedi.
Des incendies gigantesques continuent de ravager la côte ouest des États-Unis, où ils ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Des milliers de personnes ont fui leurs maisons et des centaines d'habitations sont détruites, Abdourahmane Dia.
Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Dans l'Oregon, un bébé d'un an fait partie des victimes. Les feux s'étendent de l'État de Washington au nord, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, dans le sud de la Californie, alimenté par la sécheresse et des vents violents. Les habitants d'Estacada, une petite ville rurale de l'Oregon, à 50 kilomètres au sud-est de Portland, ont reçu l'ordre d'évacuer. L'Oregon fait face à des incendies sans précédent dans l'histoire de l'État, selon sa gouverneure Kate Brown, qui dit s'attendre à de nombreuses pertes en termes de bâtiments et de vies humaines. Plus au sud, près de Fresno, en Californie, d'autres habitants ont aussi dû fuir en quelques minutes. Dans cette ville, la Croix-Rouge a réquisitionné des centaines de chambres d'hôtel pour isoler les évacués et empêcher la propagation du COVID-19. En Californie, plus d'une 20aine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 10 000 km² dans l'État, un record depuis que ces données sont relevées en 1987.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Plus de 81 000 tonnes de pesticides interdits de vente dans l'Union européenne ont été exportées en 2020 vers des pays où les réglementations sont plus faibles selon Greenpeace. L'ONG tire la sonnette d'alarme sur les risques sanitaires ou environnementaux au Maroc et en Afrique d'une manière générale. Selon l'organisation, les principaux acteurs de ce commerce maintiennent leurs activités derrière un voile d'opacité protégé par le secret des affaires. Des ONG alertent sur le méga projet pétrolier que Total veut lancer en Ouganda et en Tanzanie avant la fin de l'année et qui, selon eux, menace d'expulsion environ 12 000 familles. Le projet de Total prévoit l'exploitation des gisements découverts en 2006 en Ouganda et la construction d'un oléoduc de 1440 km passant par la Tanzanie. Total est déjà attaqué en France par 6 ONG qu'il accuse de ne pas prendre en compte les impacts du projet sur les populations et l'environnement. Pour terminer, ici aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables par rapport à la semaine dernière, soit 844 000 nouvelles demandes. Les analystes s'attendaient à 813 000 nouvelles demandes, selon les chiffres publiés jeudi par le département du travail. Le nombre total des bénéficiaires des allocations chômage a grimpé avec plus de 13,3 millions de personnes au cours de la dernière semaine d'août, soit 93 000 personnes de plus que la semaine précédente.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouidraogo.
Bonjour à tous. La CAF a reporté les demi-finales des compétitions interclubs. Initialement prévues ce mois, les matchs de la Coupe CAF se disputeront les 19 et 20 octobre pour une finale le 25 octobre. La compétition garde son Final Four et se déroulera au Maroc comme prévu. Les Guinéens du Oroya AC feront face aux Égyptiens de Pyramide et les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane et du Hassania Agadir s'affronteront dans ce dernier carré. En Ligue des Champions, les matchs allés se disputeront les 16 et 17 octobre, puis se retour les 23 et 24. La finale est prévue pour le 6 novembre. Comme déjà arrêté, si deux clubs du même pays atteignent la finale, elle se disputera dans le pays en question. Dans le cas contraire, si la finale oppose un club marocain et un club égyptien, elle se jouera sur terrain neutre. Raja Casablanca Zamalek et Wydad Casablanca Al Ahly sont les affiches de ces demi-finales. Par ailleurs, l'édition 2020 du CHAN a été reportée du 16 janvier au 7 février 2021, toujours au Cameroun, d'après les dates confirmées par le comité exécutif de la CAF. L'édition suivante, initialement programmée début 2022 en Algérie, se tiendra en janvier 2023. Le comité exécutif de l'instance africaine du football a retenu la date du 12 mars 2021 pour l'Assemblée générale élective du président de l'institution à Rabat au Maroc. Donc, le président Ahmad Ahmad, élu en 2017, n'a pas souhaité préciser s'il sera candidat à sa propre succession. Transfert, Mohamed Yatara prend la direction de la Chine. L'attaquant guinéen, en fin de contrat à l'AJ Auxerre, rejoint le Sichuan Jiangyu en deuxième division. C'est le 8e club professionnel pour l'ancien Lyonnais. Le Sichuan Jiangyu fait partie du City Football Group, le propriétaire de Manchester City. La Juventus et Gonzalo Higuain ont trouvé un accord financier pour solder la dernière année de contrat de l'attaquant argentin, attendu à l'Inter Miami, ici aux États-Unis. L'accord est trouvé et sera officialisé dès que l'Argentin aura réglé les derniers détails avec l'Inter Miami de David Beckham, a assuré la chaîne Sky Sport. Tennis, le Croate Matej Pavic et le Brésilien Bruno Suarez ont remporté l'US Open en double en battant en finale la paire néerlando-croate composée de Wesley Koloff et Nicolas Mekic. 7-5, 6-3, Pavic et Suarez remportent ainsi leur premier titre du Grand Chelem ensemble. Pavic avait déjà remporté l'Open d'Australie en 2018, associé à l'Autrichien Olivier Marache, et Suarez avait déjà gagné l'Open d'Australie et l'US Open en 2016, associé au Britannique Jamie Murray.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre, la Cour constitutionnelle a validé 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, qui se présente en troisième mandat. Et son principal opposant, c'est Loud Alain Diallo. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, nous en dit plus sur les candidatures retenues.
Face à Alpha Condé, c'est Loud Alain Diallo, son principal opposant, Ibrahima Bessila, homme d'affaires. Les deux visent pour la troisième fois le fauteuil présidentiel. La candidature du principal opposant et celle d'autres leaders d'opposition ont fait réagir le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, dont leurs partis sont membres. Dans une déclaration, le FNDC dit avoir pris acte du retrait volontaire des partis qui prennent part à la présidentielle. Abdourahmane Sano, coordinateur du mouvement.
Le FNDC prend acte de la décision de certains partis politiques membres du mouvement qui ont choisi de prendre part à la mascarade électorale présidentielle prévue le 18 octobre prochain. De cette décision découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement. Le FNDC réaffirme sa détermination à poursuivre son combat contre le troisième mandat afin d'instaurer une véritable culture d'alternance politique en Guinée.
Candidat à l'élection présidentielle de 2015, Fayami Limono, président du bloc libéral, parti d'opposition, semble apporter des précisions sur les candidats issus du FNDC.
Nous tenons à préciser ceci. Le FNDC n'a jamais exclu quelqu'un. Lorsque Alpha Condé a instruit le Premier ministre Kassori Fofana à engager les consultations sur une éventuelle nouvelle constitution, le FNDC était contre. Certains partis sont partis assister à cette consultation et n'ont jamais été exclus. Lorsqu'il a été question des élections législatives, il a été question du référendum qui matérialisait le projet d'Alpha Condé. Il y a des partis qui sont partis. Nous n'avons pas parlé d'exclusion. Pourquoi devrions-nous parler d'exclusion aujourd'hui? Tous ceux qui partent volontairement sont partis et le combat va continuer.
Avec ces candidats issus de ces rangs, que peut faire le FNDC? Ce citoyen rencontré à Conakry fait son constat.
FNDC, quoi que ce soit, ils sont tous pareils, ces gens-là. Ils cherchent à tirer leur épingle du jeu. Quand on exclut dans la gestion des affaires publiques, où on vole à tout vent, c'est de cette manière qu'on se comporte. On crée des faux mouvements fantômes pour perturber la quiétude sociale. On ne donne pas à manger à quelqu'un, on empêche les gens de sortir, qui se battent pour leurs propres intérêts. C'est pas l'intérêt du peuple de Guinée. Regardez ces gens-là, qui a quelque chose ici, comme usine ou bien entreprise qui emploie? Aucun d'eux. Au contraire, d'autres ont leurs biens ailleurs. Et l'État est incapable d'aller saisir ces biens-là. Faut pas qu'on nous prenne pour des bourriques, là.
Battu en 2010 et 2015, c'est Loud Alain Diallo va compétir avec de nouveaux visages de la politique guinéenne. Il s'agit de Makalé Camara, ancienne ministre et ancienne diplomate, de Makalé Traoré, directrice de campagne d'Alpha Condé en 2010, mais aussi d'autres peu connus du grand public. Le président sortant Alpha Condé, lui, brigue le premier mandat de la 4e République, selon ses militants, qui citent la nouvelle constitution votée le 22 mars 2020. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les populations vivant le long de la frontière avec le Nigeria ont besoin d'une aide humanitaire. Les attaques des islamistes armés ont déplacé au moins 7000 personnes selon les autorités et les organisations de défense des droits humains. Depuis début août, au moins 22 personnes ont été tuées, une trentaine blessées dans ces attaques. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Mora, dans le nord du Cameroun, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Plus d'une centaine de personnes déplacées par les récentes attaques de Boko Haram se sont rassemblées lundi dernier dans la ville de Mora pour recevoir une aide alimentaire. Plusieurs agences humanitaires, dont la FAO, ont distribué des vivres, comme des sacs de riz ou des chèvres. Mahamat Toudjé est un Camerounais de 64 ans et il fait partie des quelques 7000 villageois qui ont fui ces attaques le mois dernier.
Je suis un grand éleveur, c'est très bien. Ce que la FAO fait là, vraiment, c'est très bien. Nous attendons encore des choses, plus que ça. On les remercie beaucoup.
La FAO fait de son mieux pour aider ceux dont les moyens de subsistance ont été affectés par les terroristes, selon son représentant Fulbert Aïba d'Aliwa.
Dans cette zone, il y a beaucoup de déplacés qui ont été victimes des exactions ou ils ont tout perdu. La FAO, en ce qui la concerne, vient donc au secours de cette population qui ont été victimes des exactions.
Selon l'ONU, Goldavi a accueilli au cours des 7 dernières années 18 000 personnes déplacées. À 48 ans, Alida Wakilou est porte-parole des femmes déplacées à Goldavi.
Il y a des femmes qui font dans l'agriculture, celles qui font dans les oignons, dans le riz, dans le caral, dans le sorgho SS. Bon, tout ça là, je crois que c'est le commencement. C'est pour faire plus et mieux que ça.
C'est la seconde attaque présumée de Boko Haram contre des civils camerounais qui avaient fui le mois précédent. En août, les autorités ont accusé Boko Haram après une attaque qui a tué 17 morts et fait 6 blessés dans un camp de déplacés dans le village frontalier de Ngetchewe. Le porte-parole de l'armée camerounaise, Cyril Atonfak, a déclaré que des troupes ont été envoyées pour aider les civils dans les zones qui subissent les attaques de Boko Haram.
À l'extrême nord, les services de défense et de sécurité arrivent à assurer un minimum dans toutes les régions où on ne peut plus bénéficier des services traditionnels de santé parce que les infirmiers ont été pourchassés et tués par Boko Haram. Ensuite, il y a de dons de multiples natures, des forces de défense, populations adultes de certains de nos villages qui sont malheureusement en proie aux actions nocives des islamistes extrémistes.
Selon l'ONU, les attaques de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ont fait plus de 30 000 morts et déplacé plus de 3 millions de personnes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Gabon, les autorités ont mis en place un grand laboratoire pour effectuer des tests massifs de COVID-19. Le laboratoire Daniel Gahouma, du nom d'un médecin décédé le 18 mai du coronavirus, est devenu en quelques mois la pierre angulaire de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Il comporte 2 circuits de dépistage, dont un sur un mode standard drainant de longues files d'attente et un autre pour les urgences. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Sur ce site ultra sensible aux accès filtrés, Josiane Munyanga s'occupe des rendez-vous avec les candidats au dépistage du compartiment VIP.
On n'a pas forcément besoin du quartier, mais on a besoin de son nom, de son prénom et de la date prévue de son voyage. Et en fonction de cette date, nous calons le rendez-vous au niveau du laboratoire. Et nous allons envoyer à cette dame un message pour lui dire quand est-ce qu'elle doit passer.
Si l'on s'en tient aux récents chiffres officiels du gouvernement gabonais, le pays a atteint le pic de la pandémie en mai dernier avec 1931 cas. La courbe des contaminations est en baisse, affirment les autorités qui ont augmenté la capacité de dépistage dans les centres hospitaliers de Libreville. Hélène Gatarassé a choisi le compartiment VIP pour des raisons professionnelles. Il lui faut très rapidement regagner son poste d'affectation à l'intérieur du pays.
La personne qui n'est pas prête peut aller, il y a aussi la partie qui ne paye pas. Ils n'ont pas imposé. Moi, personnellement, je suis venue parce que je veux que ça se passe vite.
Le test est devenu obligatoire pour maintes activités professionnelles et les déplacements. Et cet espace ne désemplit pas, installé à l'intérieur de ce stade. L'objectif assigné au laboratoire professeur Gahouma est de réaliser 10 000 tests jour. Ceci est encore loin de la réalité. Kama Elvire Bongo, médecin colonel, est coordonnatrice du laboratoire professeur Gahouma.
La réalité aujourd'hui, nous ne travaillons pas 24 heures sur 24. Nous travaillons de 8 heures à 16 heures et les équipes vont continuer à travailler jusqu'à 23 heures. fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de 2500 tests à plein temps, avec tous les contrôles possibles.
Chez les patients dits ordinaires, ils sont des centaines sous les tentes, pressés de se faire dépister. C'est le cas d'André Obam, qui ne cache plus son impatience après de longues heures d'attente.
Je suis là pratiquement depuis 6 heures du matin. L'attente a été très longue, du tout, parce que au niveau de l'entrée, la discipline n'y est pas du tout. Donc, du coup, nous avons tellement traîné. Ben, du coup, rien d'organisé dans ce sens, parce que bon, voilà, on nous met tous dans un même moule, on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas.
Cette annexe du laboratoire Gaouma enregistre environ une demande de 500 voyageurs par jour, entre 6h et 15h. Le protocole sanitaire est le même pour tous. Ici, il faut 72 heures au moins pour être fixé sur les résultats du dépistage. Ismaël Obionzé pour VO Afrique, Libreville.
Ici aux États-Unis, alors que la campagne présidentielle se poursuit à 2 mois du scrutin du 3 novembre, le président républicain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden accélèrent les visites dans les États clés. Les deux candidats ont toutefois des approches très différentes pour faire passer leur message. Reportage de Patsy Wida Kuswara, repris ici par John Linden.
Le président Donald Trump se rend cette semaine dans 5 États clés, la Floride, la Caroline du Nord, le Michigan, la Pennsylvanie et le Nevada. Il a repris les meetings en plein air devant des milliers de personnes, affirmant qu'ils ne sont pas différents des manifestations en cours sur le Black Lives Matter. Le président américain Donald Trump.
Si vous êtes prêt à faire des émeutes et à vous tenir les uns sur les autres et à faire tout ce que vous voulez, vous êtes autorisé à le faire parce que vous êtes considéré comme un manifestant pacifique. Ainsi, nous avons décidé d'appeler nos rassemblements des manifestations pacifiques.
De son côté, le candidat démocrate Joe Biden rencontre des partisans en petits groupes observant la distanciation sociale, y compris en Pennsylvanie, un peu plus tôt cette semaine. La campagne de Biden repose largement sur des événements virtuels cherchant à présenter leur candidat comme un leader qui évite de mettre la vie de ces gens en danger. Todd Belt, professeur de sciences politiques à l'Université George Washington.
Et quelqu'un qui participera à des événements plus intimes écoutera ce que les gens ont à dire. Et cela fait partie de l'aspect justice sociale, des aspects médicaux et économiques de son message. Alors que le président Trump veut les grandes foules, il veut montrer qu'il a le soutien de ce qu'il appelle la majorité silencieuse des Américains, qu'il est dans cette course et qu'il a encore beaucoup d'adeptes.
Lors d'un événement de campagne mercredi dans le Michigan, Biden a critiqué Trump au sujet des révélations d'un livre à paraître du journaliste Bob Woodward et dans lequel le président a admis sur bande en février qu'il minimisait les risques du coronavirus pour éviter de provoquer la panique. Joe Biden, candidat démocrate.
Il avait l'information, il savait à quel point c'était dangereux. Et tandis que cette maladie mortelle déchire notre nation, il n'a pas fait son travail consciencieusement. C'était une trahison sur la vie ou la mort du peuple américain.
Nous n'allons pas avoir à semer la panique. Nous n'allons pas montrer de panique. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'étais très ouvert, que ce soit avec Woodward ou n'importe qui d'autre.
Les sondages montrent que les électeurs sont motivés par la pandémie et que la plupart des Américains sont mécontents de la gestion du coronavirus par Trump, ce que la campagne Biden tient à souligner. Mais alors que Trump est derrière Biden dans les sondages à l'échelle nationale, les marges sont très minces, en particulier dans certains États-Unis. La campagne de Trump a repris les activités traditionnelles, notamment la mise en place de bureaux locaux dans tout le pays et le porte-à-porte. Les conseillers de Biden insistent sur le fait que leur stratégie est de se concentrer sur la pandémie et l'économie, ciblant différentes coalitions et groupes d'affinités, fonctionne. Pourtant, certains démocrates sont nerveux. Christina Proctor, démocrate du Washington County.
Ils créent un certain enthousiasme avec leurs événements et ils frappent toujours plus aux portes que nous parce que nous prenons la pandémie trop au sérieux. Nous ne faisons pas la même chose qu'eux. Je crains que cela ne nous désavantage.
Vendredi, Trump et Biden doivent commémorer les attentats du 11 septembre à Shanksville, en Pennsylvanie, sur un site du crash du vol United 93, l'un des avions détournés par les terroristes.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.